cobuzz.com.
Rencontre par Yves Riesel.
Paul Méphano, bonjour, bonsoir.
Bonjour.
La question, c'est que faisiez-vous en mai 68? Alors, vous aviez 30 ans. Vous n'étiez plus un jeuneau. Où étiez-vous?
Eh bien, écoutez, là, j'étais né en 37, 47, 57, 68, c'est exact.
31 ans.
Je me trouvais à Los Angeles.
Oui.
Et donc, comme vous savez, aux États-Unis à l'époque, les radios diffusaient 24 heures sur 24, certaines chaînes, les informations. Et nous étions donc plus au courant que vous à Paris de ce qui se passait en France. On savait pertinemment que De Gaulle, dans un accès un peu de vieillissement, allait demander à Massu des tanks pour venir à Paris, que les étudiants pour une révolution allaient au Théâtre de France, que tout cela était assez folklorique en quelque sorte, que le Parti communiste avait du mal à s'engager auprès de Jean-Paul Sartre et des étudiants. Alors au départ, je voulais venir à Paris parce que j'étais un peu exalté par la situation. Et puis d'un autre côté, je savais quelque chose d'humoristique et de très estudiantin qui n'était pas une révolution, bien sûr. C'était un peu folklorique, quelque part, vu des États-Unis, dans la clarté et la lisibilité totale de ce qui se passait en France.
Alors, vous aviez 30 ans, vous étiez à Los Angeles. Pourquoi étiez-vous à Los Angeles?
J'avais été invité par la fondation Harkness. J'avais renaclé pour accepter, parce que il y avait encore la guerre au Vietnam en 66. Et donc, j'avais dit aux personnes qui voulaient m'inviter là-bas que j'hésitais à venir aux États-Unis en raison de la situation politique, de la position du gouvernement. Et justement, les personnalités qui souhaitaient que je vienne me disaient, au contraire, il faut que vous veniez aux États-Unis parce que vous verrez que les États-Unis, c'est d'une diversité absolue. Et la visibilité que vous en avez en France est très parcellaire. L'anti-américanisme ne correspond peut-être pas forcément à ce que vous savez par les journaux. Et en effet, ils ont insisté. J'ai pu y aller avec grande difficulté parce que quand j'ai passé l'examen de passage à l'ambassade où on fait un check-up physique et mental, on m'a posé des questions assez indiscrètes et notamment si je voulais tuer le président des États-Unis. À quoi j'ai répondu en riant, ça dépend des jours. Et évidemment, mon visa a été bloqué.
Vous aviez déjà eu un engagement politique en cette année-là?
Je l'avais eu depuis les années 60, contre la guerre d'Algérie. Je ne suis pas rentré dans le réseau Janson personnellement, mais je l'ai régulièrement à la librairie Maspero, qui était plastiquée très souvent. Je placardais des affichettes proposant la désertion à la jeunesse. J'étais avec un garçon qui s'appelait Jacques Le Trocker, qui était un flûtiste très engagé. Et donc, le soir, nous placardions des affiches et j'allais à toutes les manifestations contre l'OAS, contre Papon, contre la police. D'ailleurs, même, c'était une espèce d'engagement automatique, pratiquement.
Alors, en 61, 62, vous aviez 25 ans. En quelle année êtes-vous sorti du conservatoire?
Je suis sorti du conservatoire après à être sorti de l'académie de la musique académie de Bâle, c'est-à-dire après avoir fait mes classes chez Boulez, Stockhausen et Pousseur
à Bâle.
C'était en 64-65. J'étais chez Messiaen. Malheureusement, j'ai eu mon prix tout de suite dès la première année.
De quelle région, de quelle origine êtes-vous?
Région, c'est difficile à dire.
Vous êtes parisien?
Je suis parisien, mais je suis né tout à fait fortuitement, et ce qui n'a aucun sens par rapport à ma biographie, comme le numéro 1 premier français né à Bassora en Irak, payé à la mode
chic
actuellement grâce à Bush.
D'accord. Et alors, en quelle année êtes-vous rentré? Vous êtes rentré au conservatoire après avoir fait le cursus à Bâle?
Absolument. Non, j'étais au conservatoire dans les classes d'écriture, mais Messiaen voulait déjà que dès les années 61, voulait absolument m'avoir dans sa classe, et je lui ai dit, écoutez, maître, je ne suis pas digne de votre classe pour l'instant, il faut que j'aille travailler avec Pierre Boulez d'abord. Et il a levé les yeux au ciel, il m'a dit, mais si vous allez voir Pierre Boulez, vous ne reviendrez pas dans ma classe.
En quelle année étiez-vous donc rentré au conservatoire?
Dans les années 59-60.
59-60, donc
classe d'écriture.
20 ans.
Oui. 19 ans, 20 ans.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit portrait de l'ambiance ? C'est ça qui m'intéresse beaucoup dans cette série, d'avoir un petit peu une ambiance, une saveur, une odeur de l'époque.
Alors, il y avait une trilogie qui était très fameuse à l'époque, c'était évidemment Forêt, Debussy, Ravel, dans les classes d'écriture, d'harmonie, et etc. Et par ailleurs, il y avait un personnage isolé et lunaire qui était complètement considéré comme étrange et loufoque, Olivier Messiaen. Et évidemment, moi, je venais d'une autre trilogie.
Si étrange, si loufoque que cela, alors que...
Très peu apprécié par les professeurs du conservatoire et par les autorités du conservatoire.
Tout de même, pas vraiment un révolutionnaire par sa manière, par sa...
Encore si, parce que les modes de valeur et d'intensité étaient encore relativement récents. La sérialité totale et le marteau sans maître n'étaient pas si loin que ça. Et donc, il n'était pas en odeur de sainteté, si on peut employer ce mot pour Messiaen. Réellement. Et donc, sa classe, ainsi que le domaine musical, était un peu un contre-pouvoir par rapport à la maison de... C'était pas la maison de la radio, c'était le RTF, qui défendait d'autres compositeurs, et évidemment...
Donc on peut dire que les gens qui avaient le pouvoir, en quelque sorte, au conservatoire, avaient des relais aussi à
l'ORTF. C'était un delta. La classe Messiaen était une espèce de delta entre ce qui se passait à Radio France et ce qui se passait au domaine musical. N'oubliez pas qu'au domaine musical, Boulez, à ce moment-là, faisait connaître, découvrir... Réellement.
Mais oui, c'est ça qui est incompréhensible. Le domaine musical, c'est des années 50. Cela n'avait rien ébranlé de ce qui s'enseignait au conservatoire.
Absolument pas. Non, absolument pas. L'enseignement était... C'était des activités qui fonctionnaient fermées sur elles-mêmes. C'est-à-dire même les classes de contrepoint ou de fugue. Si vous parliez de Josquin des Prés ou de compositeurs de la Renaissance... c'était pas très bien vu, même. C'est-à-dire, moi-même, j'amenais des devoirs de contrepoint, où parfois, je m'étais basé sur des œuvres de la Renaissance. Et mon professeur me disait, mais il y a un trou, là, il faut que le deuxième temps, il y ait un accord, etc. Donc, c'était un enseignement qui était l'harmonie pour l'harmonie, le contrepoint pour le contrepoint. C'était un peu bestial. Ça n'avait rien à voir avec la musique.
Renaud Gagneux nous rappelait l'autre jour que, en fin de compte, à cette époque, on rentrait jeune au conservatoire. Il y avait des 12 ans au conservatoire. Vous-même, vous êtes rentré à 19-20 ans.
Oui, parce que moi, je ne suis pas rentré dans les classes d'instruments, je suis rentré dans les disciplines théoriques directement.
D'accord. Quels ont été donc vos professeurs au conservatoire ?
Alors, principalement, Darius Milhaud et Olivier Messiaen.
Darius Milhaud, quelle était sa position par rapport... Alors, Darius Milhaud, on peut dire qu'il était plutôt radiocompatible.
Tout à fait, c'est exact. Quoique ses opéras n'étaient pas joués.
Non.
Ses œuvres principales n'étaient pas jouées. Vous savez, toute sa production importante, quatuor, opéra, etc., n'étaient pas jouées. On jouait sempiternellement les deux ou trois mêmes œuvres uniquement.
Et est-ce que Milhaud pouvait pas, lui, faire le pont avec lui qui avait connu l'avant-garde avant-guerre ? Est-ce que lui-même n'aurait pas pu, peut-être plus courageusement, faire le pont avec et secouer le cocotier ?
C'était difficile, parce que n'oubliez pas qu'à l'époque, Pierre Boulez était très polémique, et il a dit des phrases cinglantes, comme l'amour libre entre les notes dans la musique de Milhaud, et des choses comme ça, qui étaient un peu gênantes. Je me souviens, dans sa classe, un jour, il reçoit un télégramme et il nous le montre à Betsy Jolas, à
Milhaud.
Darius Milhaud. Et le télégramme était « Oh, Alter Duft ». Et en fait, c'était un hommage que Boulez lui faisait en lui rappelant le début du dernier poème du Pierrot Lunaire qu'il avait dirigé dans les années 20. Et il ne comprenait pas l'allemand, ça l'avait beaucoup choqué.
Donc Milhaud n'avait pas perçu le compliment ou l'humour.
C'est-à-dire, il a demandé qu'on lui traduise, c'était, la traduction c'était « Oh, vieux parfum ». Alors évidemment, très choqué.
Quels étaient les condisciples que vous aviez dans la classe de Milhaud ?
Il y avait Claude Lefebvre, jeune compositeur poète, il y avait Jean-Claude Éloi, qui connaissait très bien la musique, avait une très bonne feuille, il y avait Betsy Jolas, qui revenait de temps en temps dans la classe de Milhaud, que Milhaud affectionnait particulièrement d'ailleurs. Il y avait tellement de gens...
Politiquement, est-ce qu'il y avait des gens engagés politiquement ?
À l'époque, sans doute, mais c'est difficile de citer leurs noms parce que plusieurs sont passés à l'extrême opposé. D'un côté, ils ont été s'engager au Parti communiste, Et 15 ans après, ils sont installés au Front National. Alors, je ne peux pas parler de ces gens-là.
À ce point-là ?
Certes, plusieurs, oui. Mais qui, même les engagements politiques musicaux, si vous voulez, par exemple. Je pense à ce pauvre Serge Nigg, qui a eu des prix de musique sérielle, qui a annoncé devant M. Bernard Gavotti qu'il avait écrit cette musique sans l'écouter et sans l'entendre, et que donc, si ça avait un prix, c'était effarant, que la musique sérielle... Il avait pris les mêmes positions que Florent Schmitt en disant que ce qui était sériel était gris. Et donc, la Klang Farben Melody, tout ça n'était même pas considéré. Et ensuite, il retournait vers le peuple, ce qui était très suspect quand même. La musique qui va vers le peuple, c'est pas Romain Rolland, c'est encore... Enfin, c'est un peu spécieux. Puis ensuite, il a pris des positions musicales radicalement opposées à celles-là.
On a l'impression qu'il y a une sorte de truc contraire entre la position, enfin grosso modo, la sensibilité politique des musiciens et leur démonstration esthétique.
Ça n'a pas grand sens, parce que, effectivement, parce que si vous voulez, un homme peut être odieux et faire de la très bonne musique. Il s'est trouvé, par exemple, qu'il y ait des personnalités comme Béla Bartok qui étaient humainement extraordinaires. Mais il y a des musiciens qui, parfois, sont moins intéressants, qui étaient des commerçants comme Strauss, qui est un musicien inévitable et merveilleux. On ne peut pas mélanger la morale et la création tellement, c'est difficile. Bien sûr, comme je vous dis, il y a Beethoven, il y a Goya, il y a Bartok, c'est absolument extraordinaire, cette rencontre, cette conjonction entre la pensée politique et l'art, et l'humanisme.
Le directeur du conservatoire s'appelait Raymond Galois-Montbrun.
Il y a eu Raymond Galois-Montbrun, absolument, qui était un très bon violoncelliste, par ailleurs. Un ravelien convaincu.
La manière dont il dirigeait son conservatoire
C'était un homme assez mondain, qui était tout à fait dans la mouvance post-ravelienne, distinguée. C'était un bon musicien, indéniablement, oui. On joue encore des morceaux de concours de lui.
Alors, en 68...
Il y avait eu Raymond Loucheur, aussi.
Oui.
Qui avait une position assez analogue. C'était des personnes un peu académiques, très, très à cheval sur un certain conservatisme français, bon teint, bon chic, bon genre, comme Reynald Doane au début du XXe siècle, vous voyez.
Est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de côté complètement suranné, en fin de compte, à cette époque-là, d'avoir encore cet enseignement? Et est-ce que l'enseignement que vous voyiez à l'étranger n'avait-il pas déjà beaucoup évolué?
Certes, si on voit ce que donnait Busoni à Berlin, ou même Hindemith, mais même Hindemith était un peu dangereux dans la mesure où il avait fait des choses extraordinaires, mais qu'il fréquentait certaines couleurs tonales assez particulières, c'est-à-dire l'accord parfait était là.
Dangereux, pourquoi dites-vous
non,
dangereux?
Bah c'est pour lui, l'accord parfait, c'était l'harmonie pure. C'est-à-dire, n'oubliez pas qu'à cette époque-là, on était dans une époque où il y avait les notes étrangères, etc., qu'avait cultivé Chopin, ensuite Wagner d'une façon extrême, et puis Fauré, puis enfin Debussy d'une façon radicale, dans une révolution douce et cachée. Et donc, on rentrait dans la tonalité, atonalité, l'apostrophe. On se demandait, mais comment on peut tenir dans l'atonalité? On voyait les fugatos perpétuels de Hindemith, etc. Et Schoenberg et l'école de Vienne étaient en odeur de suspicion totale.
Mais enfin,
en France.
Mais enfin,
il y avait
beaucoup
eu la guerre de 14-18, attention.
Oui, mais beaucoup d'années avaient passé. Encore une fois, moi, ce qui m'interroge, c'est à quel point, encore une fois, l'aventure du domaine musical, les déclarations fracassantes de Boulez, oui, son exil, pourquoi cela n'avait rien fait changer?
Ah si, ça a tout fait changer, justement, parce que là,
on a découvert l'école de Vienne. Dans la formation des jeunes.
Écoutez, ceux qui doivent être compositeurs sont compositeurs, et ceux qui ne peuvent pas l'être ne le seront jamais. Ça, c'est un constat absolu. Vous voyez, il y a des créateurs de différentes tendances en peinture, pour un peu calmer le débat. Quelqu'un comme Kokoschka va vers le nouveau, le monde nouveau. Ensuite, on a des gens comme Francis Bott, etc., qui vraiment vont jusqu'aux extrêmes conséquences. Il en est de même en musique. Quand il y a la 7e symphonie de Gustav Mahler et qu'ensuite il y a les conséquences qu'en tire Mahler par rapport à Schoenberg et Schoenberg par rapport à Mahler, et ce qui en découle, c'est radical. Et évidemment, la nouveauté n'est pas perçue immédiatement. Les problèmes sont trop passionnés pour être acceptés par les autres.
Bon, vous, vous êtes rentré au conservatoire, vous rentrez dans la classe de Darius Milhaud.
Oui.
Qu'est-ce que vous, vous aviez le choix en entrant au conservatoire entre différents professeurs pour la composition?
Oui, on avait le choix entre différents professeurs. Mais moi, je venais d'une trilogie très différente de celle qui régnait au conservatoire. C'était Jolivet, André Jolivet, Olivier Messiaen et Darius Milhaud.
Et vous veniez, c'est-à-dire que quand vous avez eu besoin d'apprendre la composition, oui, vers quel maître vous êtes-vous dirigé?
Vous allez être... quel maître, vivant ou...
Vivant, bien sûr.
Ah, quel maître, ben, vers Olivier Messiaen, bien sûr.
Et avec quel bagage, pour parler des maîtres morts, en ce cas-là? Et votre culture?
Mort, entre guillemets, oui, parce que le bagage, c'était Beethoven, pour moi. C'était vraiment incontournable. C'était Beethoven, c'était Debussy, c'était Ravel, bien sûr, également.
Jolivet, vous avez travaillé avec lui, ou simplement...
J'ai travaillé avec André Jolivet, il a dit à mon père... quand mon père est allé le voir pour des leçons, votre fils est très doué, je veux le faire travailler. Puis mon père ne voulait pas que je fasse de musique. Alors, et Jolivet, très généreusement, m'a donné des leçons sans me faire payer, puisque mon père m'a en quelque sorte mis à la porte. Et donc, j'ai pu travailler un peu avec André Jolivet, ce qui était très remarquable. Enfin, il avait certaines remarques qui me gênaient. Par exemple, il me disait, vous savez, il faut écrire pour tous les instruments, pour que vous soyez joué. Des choses comme ça qui sont justes.
Des trucs de métier.
C'est des choses du métier qui sont justes. Et bon, il y a eu une bouille entre Boulez et Jolivet, mais Jolivet à la radio avait une position très ouverte, autant que Darius Milhaud. C'était des personnalités qui n'étaient pas du tout fermées sur le nouveau. Et donc, pour moi, l'étincelle qui a fait exploser tout, c'était le domaine musical. Évidemment. Là, j'ai vraiment découvert ma voix.
Pourquoi Boulez a-t-il été agressif avec Jolivet alors qu'il ne l'a pas été avec Darius Milhaud et même, sauf erreur de ma part, avec Poulenc?
Il l'a été avec Darius Milhaud. Poulenc, c'était trop loin. Pour lui, c'était pas sérieux. Mais Poulenc venait au concert du domaine musical.
Il avait son abonnement.
Il avait son
abonnement. Ce qui était politiquement très malin.
C'était très malin, mais non, mais vraiment, Poulenc ne pouvait pas faire de l'ombre à l'évolution de Pierre Boulez. Par contre, à la radio, il y avait certaines positions très rigides par rapport au domaine musical. Jamais de retransmission de ces concerts qui faisaient découvrir l'école de Vienne, comme vous disiez, l'école de Vienne.
Est-ce que les étudiants du conservatoire allaient au domaine musical? Est-ce qu'on y allait en bande? Est-ce qu'on en parlait? Est-ce qu'on
avait
débattu?
Il y avait très peu d'élèves qui allaient, c'est ceux que je vous citais. Donc, il y avait...
Alors le public du domaine musical, quand on lit le livre qui lui a été consacré, on a un peu l'impression que c'est un public mondain, rombière.
Mondain, forcément, dès l'instant qu'il y a du nouveau, c'est un peu le ferment. Les snobs sont indispensables pour faire vivre la création. C'est des gens très utiles. Mais il y avait des scientifiques, il y avait des grands poètes, il y avait...
D'autres activités artistiques?
Absolument. Il y avait des peintres, il y avait des philosophes. C'était vraiment un phalanstère qui était rameuté, pardonnez-moi ce verbe, très courageusement par Madame Suzanne Tesnas, qui tenait le dernier salon parisien. Et il y avait même des gens comme Rebatté qui se fourvoyaient là. Vous voyez, c'est pas peu dire.
Il en dit beaucoup de bien dans son histoire de la musique, toujours et toujours réédité d'ailleurs.
Oui, effectivement. Mais enfin, vous voyez, il y avait... Suzanne Tesnas a été vraiment très, très active et très généreuse. Et Pierre Boulez était vraiment... avait les griffes acérées, à juste titre, par le fait que il avait une oreille formidable, une intelligence remarquable, une sensibilité formidable et une connaissance de tout ce qui était nouveau à l'époque et qui n'était pas accepté par Radio France. Et donc, il était normal qu'il y ait friction très forte entre Pierre Boulez et Milhaud et la femme de Jolivet. C'était pas tellement Jolivet, c'était sa femme. Sa femme l'a agressé, il avait répondu. Enfin, vous voyez, ce sont des faux problèmes, c'est des fausses situations.
Mais ça fait une sorte de situation de divorce néanmoins, ça a perduré longtemps.
C'était un peu scandaleux dans
la mesure où... Et est-ce que ça ne perdure pas encore aujourd'hui?
C'était scandaleux dans la mesure où ces concerts n'étaient jamais radiodiffusés, jamais reconnus par la musique officielle. Or la musique officielle, c'était des gens qui avaient un certain intérêt. Il y avait toute l'école de Paris, il y avait là-bas Joué, Mialovici, etc. Enfin des gens... très intéressant.
Oui. Très grosse injustice de nouveau aujourd'hui, on ne les entend plus.
C'est le contraire maintenant, on ne les entend plus. Tout à fait. Mais d'autre part...
Comme si le balancier allait toujours trop loin.
C'est exact, c'est vraiment le pendule de Foucault, mais pas tout à fait, parce que, vous voyez, Pierre Boulez habite juste en face de la maison de la radio, et il est pratiquement jamais invité à Radio France encore. Et il a déjà 80 ans, c'est quand même... Ça a perduré, quelque part, quand même. Bien sûr, les présentateurs de Radio France passent à foison les enregistrements qu'il a faits, etc. Ça, c'est vrai.
Donc, en mai 68, vous étiez à Los Angeles. Et quand vous êtes rentré, maintenant, qu'est-ce qu'il y avait ? Est-ce que mai 68 a touché, comme ça, a fait changer, a fait bouger les choses ? À certains égards, oui, au niveau des structures.
Absolument, indéniablement, mai 68
je parle de la musique, évidemment.
Radicalement, les choses ont changé, y compris politiquement et même sur le plan social. Ça a été important. La position de Sartre a été d'un courage extrême, et d'autre part, la position de Barrault était très, très émouvante, même si elle était folklorique. Vous savez ce qui s'est passé donc au Théâtre de France. Mais pour moi, je voulais venir à Paris, mais je pensais que les ouvriers, les étudiants allaient vers l'Élysée et prenaient le pouvoir. Or, en fait, ils allaient au Théâtre de France. Donc c'était une espèce de théâtre dans le théâtre, qui était très joli, et qui était... Évidemment, le Parti communiste ne pouvait pas mettre les pieds là-dedans.
Vous étiez communiste, vous ?
Non, jamais. Mais le Parti communiste ne pouvait pas prendre parti par rapport à ses étudiants qui n'avaient pas le même langage.
Vous aviez quelle sensibilité politique ? De gauche, et puis ?
À l'époque, j'avais une sensibilité de gauche, mais quand même une certaine réflexion sur De Gaulle, évidemment restrictif par rapport aux positions de Malraux. Il y avait beaucoup de contradictions entre les maisons de la culture qu'ils avaient créées et qu'ils voulaient être dans le sens du gouvernement. Et un artiste n'est jamais dans le sens d'un gouvernement. On est forcément à rebrousse-poil, évidemment. Alors là aussi, la position de De Gaulle, à ce moment-là, n'était plus très crédible.
Quand vous êtes revenu de Los Angeles et que vous avez retrouvé la vie musicale parisienne. Est-ce que quelque chose avait changé dans cette vie musicale ?
Je ne suis pas revenu à Paris, je suis parti directement à Berlin. Et à Berlin, il y avait un mouvement politique très violent, qui était un peu l'équivalent des Brigades Rouges, avec Teufel, etc., qui était avec une position très, 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 très violente.
Les années 70, le début des années 70, ça a été une période assez faste pour la musique contemporaine et pour sa diffusion. Est-ce que c'est pas ça, finalement, peut-être le ricochet de mai 68 en musique.
Tout à fait, tout à fait. L'arrivée à la culture de Maurice Floret, d'une personnalité...
C'est plus tard, c'est en 81.
Oui, mais ça a commencé, c'est là l'aboutissement. C'était l'arrivée à la culture de Maurice Floret sous Mitterrand.
Mais c'est 10 ans plus tard.
Et la vague rose.
Oui, c'est 10 ans plus tard.
Absolument, oui, c'est 10 ans plus tard, c'est vrai. Mais en 70, moi en tout cas en 70...
Vous rappelez qu'en 70, il y a eu toutes ces collections de disques, dans les années 70, il y avait le Polytope de Cluny, vous vous rappelez, où les gens s'entassaient.
J'étais là. Tout à fait, je me rappelle de ça, mais même...
Vous rappelez l'itinéraire ?
Pardonnez-moi si je parle de moi.
Oui, bien sûr,
mais c'est indispensable, je crois. Parce qu'en 67, j'ai écrit un poème qui s'appelle « La cérémonie ». Qui était prémonitoire de 68. Et d'ailleurs, ça devait être joué en 68 à Royan, et ça l'a été en 70, parce que il y avait eu un différend entre moi et un percussionniste parisien, parce que je voulais faire rentrer certains instruments à percussion en France, et ça n'était pas accepté. Je voulais faire rentrer les trompettes en quart de ton que j'avais vues avec Don Ellis dans le jazz, ça n'a pas été accepté, on m'a pris pour un fou, puisque je voulais qu'on mette en perce un quatrième piston dans les trompettes. Il y a eu des frictions, là aussi. Donc,
vous parliez de Maurice Fleuret. Est-ce que vous l'avez fréquenté dans les années 70, Maurice Fleuret ? Moi, je me rappelle, j'étais petit, je lisais ses chroniques dans le Nouvel Observateur, que je trouvais d'un sectarisme, pour tout dire,
merveilleux.
À 12 ans.
Merveilleux.
Dérangeant.
Oui, c'était dérangeant et c'était extraordinaire pour ça. Il ne m'a peut-être pas gâté, mais pour moi, Maurice... m'a rencontré personnellement dès les années 62-63. Et il y a eu tout de suite une empathie et une sympathie profonde.
Il travaillait beaucoup pour la jeunesse musicale de France à cette époque-là.
Certes, mais c'était différent, c'était autre chose. C'est-à-dire ses positions me plaisaient, parce que c'était des positions d'humeur, et un critique doit être un critique d'humeur. Je n'accepte pas, à moins d'être comme Primo Levi, quelqu'un qui soit très, très... dans la création et dans le sens des créateurs, c'est très rare. Rappelez-vous la position de Fétis par rapport à Beethoven, c'était très, très difficile à imaginer.
Qui sont les observateurs de la vie musicale des années 70, qui, mis à part Maurice Fleuret, qui ont compté pour, selon vous?
Il y avait surtout Claude Rostand, qui était d'un courage et d'une noblesse et d'une lucidité phénoménale. Il y avait aussi un personnage très décrié, mais que moi j'aime beaucoup, qui était Antoine Goléa, qui était
un défenseur de la musique nouvelle, mais jusqu'à un certain point.
Un défenseur indéfendable. C'est particulier. Parce qu'il prenait il avait des prises de position très, très particulières et personnelles, et avec des remords et des retours en arrière, etc. C'était assez extraordinaire.
En mai 68, le conservatoire de musique a été occupé.
Oui.
Est-ce que ça vous a fait plaisir?
Ah oui, absolument. L'ex-conservatoire,
disait-on, dirigé par l'ex-directeur. Est-ce que ça vous a amusé?
J'ai trouvé ça assez épatant, les prises de position.
On a fait tomber les bustes de Fauré, on les a même brisés par moments.
Oui. Alain Louvier a pris une position extraordinaire. Il est devenu directeur du conservatoire par la suite. Et c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien au conservatoire. Et on ne le dira jamais assez. Parce que c'est un des premiers à avoir changé les classes d'art lyrique, à avoir changé l'enseignement, sorti de la classe de Messiaen, totalement converti à tout ce qui était véritablement utile au conservatoire, sans aucune démagogie. Il a vraiment transformé le conservatoire de Paris. Il avait fait la même chose à Boulogne, d'ailleurs.
Maurice Fleuret a nommé Marc Bleus comme directeur de la musique. C'est la première chose qu'il a fait. Il a mis à la retraite Gallois-Montbrun avec 2 années d'avance.
Oui, c'était Marc Bleus d'abord.
Ce qui pouvait être vu comme un peu mesquin. Il a nommé Marc Bleus, qui n'est pas spécialement, d'après ce que je crois savoir, un homme de gauche.
Non, mais ça c'est secondaire. C'est un homme très engagé. Parce que dans ses positions artistiques et dans la vie, c'est un homme qui va dans le sens de la nouveauté. Et il prend des positions extrêmement courageuses, Marc Bleus.
Alors finalement, le progressisme en musique est de droite un peu ces dernières années, ces dernières décennies.
C'est souvent le cas. Vous avez l'exemple notamment de Schoenberg, qui était un homme de droite à Vienne et à Berlin. C'était un homme de droite, si vous lisez ses lettres. Vous savez, la révolutionnarité des êtres, entre guillemets, est-ce que c'est Éric Satie ou est-ce que c'est Debussy? Or, Debussy est très classiciste, très homme de droite, bourgeois, et c'est la révolution qui se passe sans qu'on le sache. C'est extraordinaire. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit le bolchevisme radical qui est forcément...
On n'a pas l'impression que le romantisme de la révolution vous touche et vous...
Là, c'est une question que je me pose. Vous me posez une question qui, moi-même, je me renvoie à mes propres questions. Parce que je me demande si l'homme providentiel crée la révolution ou la dictature, ou bien, ce qui n'est pas providentiel, c'est le contraire, bien sûr, ou si les situations politiques, et je pense que c'est les positions économiques et politiques, qui créent ces personnages catastrophiques, révolutionnaires ou dictateurs. C'est-à-dire, si vous voulez, si on voit l'Allemagne après 14-18 avec l'inflation, etc., le Japon à cette époque, à un cheveu, ça aurait pu tourner vers une position radicalement à gauche ou les positions que nous savons qui ont été prises. De même, quand on voit Staline aussi, on est assez assujetti à l'image d'une Russie soviétique qui a libéré les gens des camps et en même temps tout ce qui a eu lieu par rapport aux hommes et par rapport à la création sous ces régimes. C'est effarant.
Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, en tant qu'homme et en tant qu'artiste, depuis 40 ans? Qu'est-ce qui a été le plus grand choc pour vous, la plus grande blessure?
La plus grande blessure, je crois, c'est le fait que les hommes ont pu être bernés comme ils l'ont été, par exemple, après le Front populaire, quand ils l'ont été en Espagne. C'était des hommes très idéalistes, c'est des femmes très idéalistes qui sont allées en Espagne et revenant dans une France aux trois quarts vichysée, mis en suspicion, qui n'avait été suivie par personne, en fait. C'était des idéalistes qui avaient été un petit peu floués, si vous voulez, totalement floués. Et puis, c'était des guerres sanguinaires, la guerre de 14-18 aussi.
Mais là, depuis 68, depuis 40 ans,
Ben, depuis 68, je me dis que la mémoire a été entamée par, par un oubli que l'homme n'apprend pas. Puisqu'il y a eu la guerre du Vietnam, il y a eu la... enfin, les soubresauts de la fin des guerres coloniales avec la guerre d'Algérie, le Vietnam, puis à présent ce qui se passe, les Khmers rouges, c'est ça qui m'a marqué. Comment se fait-il que tout recommence
toujours
de la même façon, avec le même langage et les mêmes situations? Les gens proposent des bons sentiments pour tricher et pour tuer uniquement par intérêt économique, en fait.
Vous n'êtes pas un homme de système, vous avez des idées larges, vous avez fait des disques et vous avez interprété d'autres compositeurs qui n'avaient pas forcément la même idée esthétique que la vôtre. Et je voudrais vous poser une question. Qui avons-nous raté comme grand compositeur qu'il faudrait réécouter de ces affreux conservateurs des années 50, de ces gens de la radio?
Ben, je pense que, justement, des gens comme Mihalovici, il y a une grande injustice par rapport à Mihalovici, qui est un compositeur de grande valeur. Plusieurs personnages à l'École de Paris, et je pense aussi à Vishnegradsky, qui était quand même quelqu'un d'admirable, et qui a eu une projection dans l'avenir, qui a prolongé déjà la révolution, qui était ouverte, par contre, qui était une révolution déclarée, celle des Russes et de Scriabine, notamment. Et même... je pense à un compositeur qui avait un nom français, qui était en Russie à l'époque du constructivisme.
Obouhoff.
Il y a Obouhoff, bien sûr, avec la croix, pas la croix de fer, mais la croix de feu.
Et parmi les Français de France.
Alors, parmi les Français de France, il y a
gens comme Jean Rivier. Il y a quelque chose à sauver.
Je l'ai connu mal. Il a été mon professeur. Il remplaçait Darius Milhaud certains jours. Je le connais mal, je ne peux pas dire ça, je ne sais pas. Je crois qu'il faut donner à entendre, et je pense que les hommes sont assez adultes pour savoir juger ce qui est valable ou pas. Et je ne suis pas pour mettre à l'écart, vous voyez, parce que je pense qu'au début du XXe siècle, il y a certains compositeurs comme Schrecker, par exemple, ou comme Korngold, qui sont extraordinairement vivants et qui me passionnent personnellement, et beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres... c'est pas parce qu'il n'y a pas le clé qu'il n'y a pas Schmidt-Rottluff, etc. Enfin, si vous voulez, le cavalier bleu, etc.
Donc votre position, ce serait il faut entendre, il faut écouter. Est-ce que vous pensez que les conditions aujourd'hui sont réunies pour qu'on entende tout ce qu'on devrait écouter?
Non, parce que l'homme reste très énigmatique dans la mesure où il est très fermé et dogmatique. On ne relativise pas les choses. C'est-à-dire, si vous voulez, je vois autour de moi, par exemple, ne serait-ce que pour les pianistes, on dit « Glenn Gould est un génie », certains, et il n'y a que lui. Et d'autres disent « Glenn Gould, c'est épouvantable, c'est vraiment un parti pris ridicule, etc. C'est grotesque. » Or, Glenn Gould, c'est un versant de Bach, très intéressant, mais ça n'est qu'un versant qui n'empêche pas qu'il y a d'autres conceptions. Les grandes œuvres ont plusieurs parcours possibles et plusieurs versants, comme les grandes montagnes. Et donc là, je suis un peu mystique, comme l'univers. Donc, on doit voir les différentes facettes, et chacun ne peut jamais que donner qu'une facette de Beethoven, qu'une facette de Bach, qu'une facette de Wagner. On ne peut pas tout donner. Il n'y a pas qu'une version qui est la bonne version et pas les autres. Vous le savez bien, dans ce domaine-là. Vous êtes quand même principalement intéressé et concerné par ce problème. Parce qu'il y a toujours des interprétations qui remettent en question les choses et donnent un nouveau visage. On peut interpréter Mozart d'une façon encore beaucoup plus clairvoyante depuis qu'il y a eu les baroques, etc. Tout ce qui a été vraiment valable donne une nouvelle feuille, une nouvelle façon d'écouter.
Mais 68 n'a pas été en musique ce mouvement libertaire qui aurait dit on ouvre les portes et on écoute. Ça a éventuellement fait basculer le pouvoir de faire entendre vers d'autres. Ça a mis aux poubelles de l'histoire pour l'instant un certain nombre de gens qui tenaient le dessus du panier dans les années 50, 60, mais ça a créé d'autres injustices.
Je ne suis pas sûr. Je dirais que quand même mai 68, quelque part, était important en musique parce que sur un niveau local, au niveau du conservatoire, l'enseignement, la notion de la pédagogie a énormément évolué. Il y a une ouverture dans les classes de composition extrêmement différente et beaucoup plus réelle, enfin plus proche de la réalité musicale. Pour les choses locales, ça a été très, très important.
La pédagogie s'est renouvelée.
La pédagogie, oui, ça a été très important.
Ça a correspondu aussi à la réalisation finalement du plan Landowski, l'ouverture de nouveaux conservatoires.
Certes, absolument, des maisons de la culture, de toutes sortes de choses qui auraient pu fertiliser énormément le champ musical et qui l'ont fertilisé dans certains cas. Vous savez, les écoles, c'est une chose. L'engagement est une chose, mais les gens valables trouvent leur compte pour arriver à s'épanouir, et les gens qui sont obtus se meurent même dans ces champs-là.
Et aujourd'hui, vous diriez-vous, pour terminer, que, après toutes ces années, le système, l'organisation, par exemple, de l'enseignement musical, de la formation des jeunes, aujourd'hui en France, a rattrapé son retard et de bon niveau ?
Indéniablement, parce qu'il y a des grands chefs d'orchestre qui viennent au Conservatoire de Paris, l'électroacoustique est enseignée normalement dans les classes, l'informatique est donnée aux élèves, ils rencontrent des professeurs qui viennent de aussi bien d'Argentine que du RSS, de l'Union soviétique, enfin, c'est extraordinaire. On a une ouverture sur différents pays, et l'ouverture à l'Europe aussi donne des interprètes de grande valeur, évidemment, ceux qui peuvent être aptes à recevoir cet enseignement.
Aujourd'hui, vous enseignez ?
J'enseigne personnellement certains élèves, oui, toujours. Toujours, c'est important pour moi. Je m'enseigne à moi-même, d'ailleurs, comme ça.
Vers quoi sont-ils attirés ? Que produisent-ils comme musique, les élèves de Paul Méfano ?
Eh bien, mes élèves produisent des œuvres qui sont, au premier abord, si on peut décrire les choses superficiellement, qui utilisent aussi l'instrumentarium classique et l'informatique musicale, et les nouvelles façons de penser la musique par rapport à l'informatique, qui a été quand même un changement radical et qui est une révolution, ça, pour le moins que l'on puisse dire. Et l'analyse faite beaucoup plus fine par les micros, par les ordinateurs. Et actuellement, on peut travailler vraiment sur des tas de domaines qui sont tout à fait nouveaux et très ouverts sur le son musical. Et d'une façon beaucoup plus professionnelle qu'il y a 50 ans, indéniablement.
Merci.
Cobuz.com. Rencontre par Yves Riesel.